Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 12 septembre 2014, le quotidien Ouest France publie l'avis de décès d'un jeune homme de 26 ans. Il annonce que la cérémonie d'obsèques aura lieu le mardi suivant à Alençon. Le jour dit, devant l'église, la grand-mère du défunt se trouve là, ainsi que quelques personnes plus ou moins proches. Mais le corps n'arrive pas. En revanche, la police a dépêché un inspecteur intrigué par la mort de cet homme, bien connu des services de la justice et du procureur. Les pompes funèbres confirment qu'un homme a bien téléphoné pour demander de préparer à Alençon les obsèques de son frère décédé à Paris. Mais l'homme a rappelé plus tard en disant que l'épouse souhaitait finalement que son mari soit inhumé au Mans et non à Alençon. L'enterrement a donc été annulé. Un temps, l'employé des pompes funèbres, interrogé par le quotidien de l'Ouest, se demande si ce n'est pas une blague. Il commente un brin agacé : « Nous sommes confrontés à des décès réels, nous. Je ne vois pas l'intérêt de blaguer avec ça. » Après une courte enquête, le policier constate en réalité que la publication de l'avis de décès est postérieure à ce changement de lieu d'inhumation. J'espère que vous suivez. Et il finit par être convaincu que l'homme n'est ni mort ni enterré. Il est simplement condamné à 5 ans de prison ferme et en cavale. Il a tenté d'organiser sa mort pour échapper à la justice, bien déterminé désormais à lui faire payer le prix fort de son stratagème un peu foireux. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, trois autres histoires d'hommes et de femmes déclarés morts officiellement, mais qui ont dû, eux, se battre pour montrer qu'ils étaient bien vivants. Trois récits racontés par Émilie Chaudet et Inès Leroux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça fait 68 ans que je traîne mes godasses là, bientôt.
Donc ici, il n'y a pas de formalité, il n'y a rien. On est chez soi. Tout le monde est chez soi. Une des particularités, c'est la musique en permanence.
Nous sommes en Bretagne, à Gourin, un village situé à la confluence de trois départements, les Côtes d'Armor, le Morbihan et le Finistère. C'est pile à cette intersection que Raymond Pouliquen habite et que commence son histoire.
Quand j'avais ma leucémie, j'étais condamné. J'avais une toubib. Elle me dit comme ça, je suis franc avec vous, Kelly, je ne vais pas vous mentir. Il vous reste peut-être, grosso modo, 2 ou 3 mois à vivre. Et donc, quand on sort de là et qu'on sait qu'on a une leucémie, là-dedans, ça tourne à 200 à l'heure. Le lendemain, ça n'allait pas du tout. Alors, je rappelle le médecin, je dis, ah, ça ne va pas. J'ai la cafetière qui bout, ça va pas du tout. Bon, il me dit, viens là, je vais te donner un médicament pour calmer tout ça. J'ai pris un cachet, ah là, je savais plus où j'étais. J'ai baigné la boîte en l'air, puis je me suis dit, s'il faut faire face, il faut faire face. Ben là, je suis sous traitement depuis 16 ans bientôt. Voilà.
Raymond Pouliquen est un ancien salarié du secteur agricole et il a frôlé la mort 4 fois. La première, c'était avant qu'un protocole d'essai ne lui permette de survivre à sa leucémie. La deuxième et la troisième, c'est à la suite d'un AVC et d'un coma. Et la quatrième, elle est un peu particulière.
Raymond, je sais pas si t'as le temps ou la force de me raconter cette histoire.
Ah, que j'étais mort. Ah bah oui. Ah, mais je vais te raconter ça. Hein. C'est pas une affaire, je vais prendre un document. Ça t'est déjà arrivé d'être mort? Moi, j'ai vu mon nom dans le journal, donc preuve à l'appui. Voilà comment c'était mis. Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de, à l'âge de 73 ans. De la part de sa famille. Alors, le défunt repose au salon funéraire Lucas, 10 rue de la Vierge, Gourin. La cérémonie religieuse sera célébrée ce matin, lundi 5 novembre 2012, en église de Gourin. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement. Donc, puisque j'ai des ennuis de santé que tout le monde connaît, que mon secteur connaît, ils se sont dit, ça y est, il est claqué. Et donc, je sors comme d'habitude tous les matins chez mon beau-frère qui habite à une centaine de mètres. Puis ma voisine me dit, tiens, dis donc, t'es pas mal en forme, quoi, hein, pour un gars qu'on va enterrer ce matin. Oh, je dis, oui, on va enterrer ce matin. Hakim me dit oui. Et donc, c'est la voisine qui m'a appris ça. Avec un certain sourire, quoi. Mais qu'elle me dit, j'ai reçu 30 coups de fil ce matin pour me demander si c'était pas toi. Tiens, le téléphone, il sonne. Je te parie que c'est encore ça.
Le jour où on annonce la mort de Raymond Pouliquen, les gens du village n'osent pas appeler la veuve. C'est à la voisine qu'il téléphone toute la journée.
Et aux gens qui l'appelaient, elle disait, ça m'étonnerait, parce qu'elle blague aussi, je le vois en train de donner à manger à ses poules, ou bien se promener sur la route, ça m'étonnerait qu'il soit décédé. Donc, j'étais parti vaquer à mes occupations un tout petit peu. Et au bout d'un moment, je vois un gars descendre, un copain. Il me dit, tu sais d'où je viens ?
De l'enterrement.
Ah oui, qu'il me dit. Certains sont venus de Châteauneuf-du-Fou, un peu partout. Tous mes amis étaient affolés. Bon, ça a défrayé la chronique pendant quelques moments. Ah ben oui, il y a des gens qui sont retournés dans la rue. Regardez, il y a certes, même il y a certaines personnes que je connaissais, je leur ai dit « Coucou, je ne suis pas encore mort hein. ». J'ai vu une dame au centre Leclerc un jour arriver avec un caddie, donner un coup de frein, elle est restée me regarder pendant 15 secondes et elle a fait demi-tour. Je suis sûr que celle-là n'a pas dormi pendant 3 jours. Et un jour, je vais faire une prise de sang. Donc j'arrive au cabinet, je m'installe dans la salle d'attente. Puis il y a un gars qui me dit « Je rêve ou quoi ?» Pour moi, tu étais mort et enterré. Ma femme est dans le cabinet et qui dit « Il faut aller tout de suite l'avertir parce qu'elle a un problème cardiaque. Elle te voit là, elle meurt. » Donc l'infirmière est allée dans la salle et lui a expliqué donc que j'étais bien vivant. Et c'est des gens que je connaissais bien. Mais pour eux, j'étais mort et enterré. Ben, je lui ai dit, il y a un problème de nom, quoi. C'est un homonyme, quoi. Il n'était pas connu à Gourin pour la bonne raison qu'il avait passé le plus clair de son temps en région parisienne. Il avait quitté Gourin à peut-être une vingtaine d'années. Comme il n'était pas connu à Gourin du tout, tout le monde a cru que j'étais fait, quoi. Ouais. En général, les gens me disent comment c'est dans l'autre monde, quoi. Ben, je leur dis, ben, c'est pas si mal que ça, ouais. Jusqu'à présent, je suis encore bien en vie.
Au moment où je m'apprête à quitter Raymond Pouliquen, son petit-fils de 16 ans, qui habite lui aussi à Gourin, arrive avec sa cornemuse sous le bras.
Noël est né 29 jours après qu'on a trouvé ma leucémie. Celui-là, je dis, je ne verrai pas grandir. Mais si, si, si. C'est un prodige. Allez, vas-y, joue-nous un nez. Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
C'était une journée comme une autre. J'avais une très forte migraine et des picotements dans les mains. Donc j'étais à 18 km de Strasbourg, j'ai dû prendre la voiture, rentrer tellement ce mal de tête était fort. Et donc petit à petit, c'était de pire en pire. Et voilà ce qui m'a amené à aller à l'hôpital, aux urgences. Donc là-bas, on ne trouvait rien. Les analyses, tout était bon. Ensuite, on m'a mis aux maladies infectieuses parce qu'on pensait que c'était une méningite ou maladie de Lyme ou listérie, enfin tout ça. Ils ont fait des recherches, rien non plus. Donc après, on a décidé de me garder la nuit en observation. Et là, petit à petit, les réflexes sont partis. J'ai demandé à manger. J'ai fait une fausse route. Et ça a parti dans les bronches, quoi. J'ai tout fait. Et l'eau, pareil. Et donc après, ils ont vu qu'il y avait quelque chose au niveau respiratoire. Et donc après, on m'a amené en urgence en réa pour m'intuber. Je respirais plus tellement. J'allais partir paisiblement, sans m'en rendre compte d'ailleurs. Donc après, j'ai encore vu mon mari, j'ai dit, il m'a regardé, il a dit, t'inquiète pas, c'est rien, ils vont te mettre, ce sera juste une petite opération, t'inquiète pas. J'ai encore dit, viens avec, et puis bon, là, les portes sont fermées. Et puis donc, plus rien, plus rien. Le noir complet, plus rien.
Angèle arrive à l'hôpital pour une forte migraine. Elle ne sait pas encore ce soir-là qu'elle n'en ressortira que dans 6 mois. Elle a 57 ans quand le syndrome de Bickerstaff se déclare. C'est une maladie très rare qui paralyse tout le système nerveux à cause de la présence trop importante d'un certain type d'anticorps dans l'organisme, ce qui protège les fibres nerveuses. À partir de là, impossible de commander son corps, qui reste complètement immobile.
J'étais plus capable d'ouvrir les yeux, de voir. Par contre, j'entendais tout. Je ressentais beaucoup la douleur, toutes les douleurs. Mais je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais rien faire. J'étais inerte, encore inerte. C'était les douleurs qui m'ont réveillée. En premier, j'avais très mal aux bronches et j'entendais mes côtes craquer quand j'essayais de respirer. J'entendais donc quelqu'un qui respire à côté de moi. Et en fait, c'était ma machine, c'était mon respirateur que j'entendais. Après, j'entendais, tu fais la chambre du 250. J'entendais que j'étais toujours à l'hôpital, donc j'étais rassurée. Je me suis dit, bon, bah, ils vont venir, ils vont me dire ce qui se passe, où on en est, pourquoi je suis là, pourquoi je vois plus rien, pourquoi je suis dans le noir complet. Et puis non... Non, j'attendais, j'entendais. Oui, à un moment donné, j'ai entendu, est-ce que votre femme aime bien la musique? Donc mon mari a dit oui. Donc ils m'ont mis de la musique, mais en non-stop. Vous voyez, ça ne s'arrêtait jamais. Parce que quand bien même quelqu'un, mon mari l'éteignait avant de partir, dès que quelqu'un rentrait dans la chambre ou quelqu'un qui faisait la chambre, il disait « Oh, c'est triste ici. Oh, il y a de la musique, on met la musique. » Pour moi, ça devenait un supplice, c'était terrible. Je me suis dit « Est-ce que si je m'en sors, ça va être... mon cerveau sera détraqué, c'est pas possible, autant de musique. » Et j'entendais à un moment donné, on va lui nettoyer les sinus, elle a un petit problème aux sinus, on va lui faire 3 soins. Et donc, une personne a dit à l'autre, on lui fera 1 soin parce qu'elles ont entendu leur grand chef dire qu'elle va bientôt clamser. Pour moi, c'était un choc parce que je me suis dit, clamser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle va mourir. D'ailleurs, un médecin a même passé et il m'a fait le dernier test. Il m'a pincé violemment le sein. Ça faisait très très mal, je croyais même qu'il m'arrachait. C'est comme si on vous arrache un organe à vif. Et donc, il est revenu avec du monde. Il a bien dit cette phrase, il a dit « Voilà comment on procède pour voir si une personne est vivante ou morte. » Il a refait ce test et ça faisait encore aussi mal qu'avant. Et après, il a dit « Voyez, il n'y a plus rien. » Donc, j'ai compris que mon cas était grave. Mais je, intérieurement, je criais, je hurlais, je me disais pas arrêtez, en fait, je suis là, je suis vivante. Mais non, ça ne servait à rien. Je me suis dit, bon, ils vont se rendre compte le lendemain. Enfin, je gardais quand même espoir. Je me suis dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Tous les jours, je me suis dit, mon mari, ma famille, ils vont voir que je suis là. Ils vont le voir, ils vont faire quelque chose. À un moment donné, j'ai compris quand une amie m'a dit, même dans le coma, tu es belle. Donc ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, oh là là, elle doit en rajouter. Mais c'est en fait le mot coma qui est resté. Parce que là, j'ai compris que j'étais dans le coma parce que personne ne m'avait dit que j'étais dans le coma. Comment ça se faisait qu'ils voyaient pas que je vivais, ça je pouvais pas le comprendre. Alors que moi j'entendais tout, j'entendais, même sans les voir, je savais qui c'est qui était là, j'écoutais leurs paroles, ils me suppliaient de revenir, il y en a qui faisaient des prières, il y en a, même ceux qui disaient rien, je voyais exactement qui c'était, enfin, même ceux qui essayaient de pas pleurer, je sentais qu'ils pleuraient. J'avais toujours envie de leur crier, mais je suis là, je n'ai rien. Au bout du quatrième jour, l'anesthésiste il disait à mon mari, il faut songer à débrancher, plus rien ne fonctionne, que son cœur qui fonctionne. Heureusement, mon mari a dit non. Ouais, ils ont tenu. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il fallait que je revienne. Tu peux pas rester couché comme ça, t'es une battante, faut que tu reviennes. C'était motivant, mais moi j'avais envie de leur crier, mais je suis là, je n'ai rien. Mais c'est difficile quand on perd ça aussi, vous êtes même plus capable d'ouvrir les yeux. Ma fille, elle voulait voir vraiment si je pleurais ou pas. Elle avait déjà vu qu'il y avait des larmes de temps en temps, mais on lui disait toujours non, c'est pas possible, c'est le gel qu'on lui met dans les yeux. Et à ce moment-là, elle a vu qu'il n'y en avait pas, il n'y avait rien dans les yeux. Donc elle m'a dit plein de choses assez intimes qui me feraient éventuellement pleurer. Elle m'a dit qu'elle voulait avoir un troisième enfant, et que cet enfant ne connaîtrait pas sa mamie, etc. Donc ça, ça m'a beaucoup touchée. Et alors, c'est là que ça a bien coulé. Et à un moment donné, j'ai entendu, maman, elle pleure. Maman, elle nous entend. Et à partir de ce moment-là, je commençais tout doucement à bouger le petit doigt. C'était le premier signe. Je me suis dit, ça y est, je suis sauvée, voilà, tout va changer. Ils vont voir que je suis vivante. Mais le passage entre le coma, enfin, où il n'y avait rien, et après le fait que je revienne, c'était une étape formidable pour moi.
La phase de récupération dure 6 mois. Angèle doit apprendre à respirer toute seule, à manger, d'abord à la seringue, goutte par goutte. Et puis elle apprend aussi à tenir assise, debout. L'histoire paraît incroyable. Les médecins qui étaient à deux doigts de déclarer son décès n'ont jamais vu une chose pareille. Selon eux, Angèle doit être la 15e personne au monde à se remettre de ce syndrome indétectable sans examen approfondi.
Ce médecin qui a fait le test du téton, le même anesthésiste, il a demandé à mon mari de faire les démarches pour mes obsèques. Il lui a dit qu'il fallait mieux le faire avant qu'après, puisque c'était imminent et que ça allait se terminer assez rapidement. Il est allé s'occuper de mes obsèques, choisir mon cercueil, tout ça. Cercueil en chêne clair, capitonné, soie blanc et tout ça. Donc j'ai arrêté de lire et on l'a jeté. Ça m'a suffi, mais j'ai dit, je veux le voir. Je suis peut-être la seule personne au monde qui a pu voir ce qui était prévu pour elle et qui est toujours vivante.
À presque 1000 km de chez Angèle, je retrouve Robert. Il habite seul dans une petite maison à Listrac-Médoc en Gironde, juste à côté de la pointe de l'estuaire. Ça fait 10 ans qu'il partage la vie d'Annette, qui vit dans le village d'à côté. Le jour où je viens voir Robert, elle est déjà là. Un peu plus présente auprès de lui depuis quelques mois. Depuis que Robert a dû affronter sa mort administrative.
Il m'est arrivé quand même une autre histoire, c'est que je reçois un courrier des impôts
disant que la banque avait refusé de payer les impôts. Le lendemain, je suis parti à la poste, avec mes papiers d'identité, tout ça, et posé la question de savoir pourquoi on avait refusé de débourser de l'argent pour les impôts. Elle m'a dit, mais monsieur, vous avez une pièce d'identité, puis un passeport. Puis elle continuait à bien noter sur son ordinateur. Et puis elle me regarde, elle me prend le bras, elle me dit, monsieur, mais vous êtes mort. Ça m'a choqué parce que bon, elle a voulu vraiment voir si j'étais bien vivant. Elle m'a pris le bras comme ça. Puis elle a commencé à plaisanter, mais vous êtes un zombie ou quoi, elle m'a dit. Et c'est de là où tout est arrivé, quoi. Que tout a continué à se dégrader, quoi, dans ma vie, quoi. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, ça envoie d'argent. Les trucs de ma complémentaire d'assurance, je reçois les papiers aux héritiers de M. Robert Chabot. La poste m'a dit que j'avais été désigné comme mort par la banque postale. Ça a été dit comme ça. Aux héritiers de M. Robert Chabot, 14 rue de la Forge, Grand Pougeot. Nous avons bien reçu votre courrier, nous informant du décès de M. Robert Chabot. Afin de permettre le remboursement du trop perçu des cotisations, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir un certificat d'hérédité délivré par la mairie, mentionnant en cas d'héritier multiple la personne se portant fort. Voilà. C'est incroyable de voir des trucs comme ça. Moi, personnellement, j'étais scié complet, là. J'ai appelé mon fils, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, j'ai des courriers pour vous, hein. C'est aux héritiers de M. Robert Chabot. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein. Bon, et sur ce fait, quand j'ai reçu ce courrier, je suis encore reparti à la poste. Le postier a fait vraiment le nécessaire, a téléphoné, a faxé, comme quoi j'étais bien vivant, tout en certifiant, il fallait faire un papier, un certifiant sur l'honneur que j'étais bien vivant. C'est quand même quelque chose d'incroyable, alors que il y a aucune preuve qui désigne quoi que ce soit comme j'étais mort. Il n'y a pas eu de certificat de décès, il n'y a rien eu. Mais à chaque fois, il fallait que je fasse un papier certifiant sur l'honneur que j'étais bien vivant. Moi, Robert Chabot, certifie sur l'honneur être bien vivant au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, il fallait signer, dater, signer. Voilà. La poste, par contre, même mort, il y avait un petit emprunt. Le prélèvement a été fait systématiquement. Aux impôts, par contre, il a fallu que je remplisse un dossier, tout ça, et refaire un chèque. Et puisque j'étais mort, sur tous les organismes, j'étais mort. Alors, et ça, c'est quand même quelque chose de très lourd à supporter, parce que on a beau se sentir fort, mais c'est vraiment dur à supporter. Ça rend presque les gens dingues, honnêtement dingues, parce que bon, le docteur m'avait donné des cachets, mais alors j'en prenais un. Comme je ne dormais pas, j'en prenais un deuxième, et j'en prenais un troisième, et des fois jusqu'à 4-5 cachets. Puis bon, je ne dormais pas de la nuit, puis là, dans la journée, d'un seul coup, je tombais comme un drogué, quoi. Ben, on se sent vraiment, comment dirais-je, on se sent mort, quoi. On est mort, on est vidé de tout, parce que en plus de ça, on fait une erreur, et il faut prouver A plus B qu'on est bel et bien vivant. Falloir certifier à chacun des organismes en écrivant, en certifiant sur l'honneur que j'étais bien vivant. C'est quelque chose d'horrible pour moi. Voilà.
Ça a duré deux jours, hein, où il a un peu rigolé, mais après ça a été... Quand il a vu les dégâts que ça a occasionné, automatiquement, il a changé d'idée, quoi.
Et bien, quand vous voyez les copains, ils me disent, voilà le mort vivant, le zombie qui arrive. Et ça s'est répété des centaines et des centaines de fois. Ça fait que, bon, il arrive un moment, c'est vraiment épuisant. La vie bascule au complet, là. Et j'ai plongé vraiment dans... C'était du noir, c'était dans le noir complet. Et j'ai failli prendre beaucoup plus de cachets que prévu pour dormir. Et puis, j'ai dit, bon, c'est pour le coup, ils vont me dire, je serai mort pour de bon, quoi. Dans la nuit, mais comme je voyais, je dormais pas, et je reprenais les cachets, et c'est là où je me disais, mais tant qu'à faire, il vaudrait mieux en finir, parce que j'avais la tête, je savais plus où j'habitais. J'aurais pu en arriver au geste fatal aussi, et ça, moi, j'étais plus maître de quoi que ce soit, hein.
À un moment donné, il m'a dit, de toute façon, parce qu'il prenait trop de cachets, je lui ai dit, t'es pas bien, tu dors pas, tu prends trop de cachets, ça va pas, tu dors pas quand il faut. Et il m'a répondu à ce moment-là, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, je suis mort. Quand il m'a fait cette réflexion-là, j'étais un petit peu désorientée. Et je l'appelais souvent, on se voyait un peu plus, j'essayais d'être présente, quoi. Pour éviter qu'il fasse une bêtise.
Et puis bon, il y a les problèmes de santé, et puis je me sentais mal dans ma peau, parce que vis-à-vis de ce qui m'est arrivé, je le faisais ressentir beaucoup à tout mon entourage après. Je m'énervais pour un oui, pour un non, une petite réflexion, je m'enflammais. Mon entourage en subissait les conséquences, quoi, c'est tout. Ouais.
Au final, combien de temps vous êtes resté mort aux yeux de ces administrations ?
Quasiment 3 mois.
Vous vous sentez comment là aujourd'hui ?
Un mort bien vivant, quoi.
Face à l'angoisse du temps qui passe, ou stress à mort à cause d'une menace, nu comme un ver dans un scanner. La pire des heures est la dernière. L'ennui vous mine, il faut que ça se termine. Besoin d'amour, de médecine. Survivant, finaliste, patient désiré, liste.
C'était Même pas mort, un reportage d'Inès Léraud et Émilie Chaudet, réalisé par Thomas Jost avec un coup de main de Nathalie Battus. Ce reportage a été diffusé pour la première fois le 6 janvier 2015. Merci à la famille Pouliken, à Yvan Turc, à Angèle, à Raymond Liebi, à Robert, à Annette Chabot, ainsi qu'à toutes les personnes que nous avons rencontrées depuis la première diffusion de ce reportage. Sachez que Raymond va bien, Robert aussi. Et quant à Angèle, nous n'en avons pas de nouvelles. D'une sentinelle, attendre comme tout le monde, une poignée de secondes.